Chantal, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi. Marina Rollman.
Bonjour.
Daniel Morin.
Oh, bravo Daniel.
Albert Algou.
Bonjour.
Tout à l'heure, il y aura Tanguy Passureau. Et notre invité, la douce Clémentine Sévaré.
Bravo.
Clémentine.
Merci Clémentine de venir nous d'abord de venir nous voir, mais surtout de venir nous présenter ce film en mille morceaux, parce que le sujet est fort, il est prenant, il est poignant. On va en parler dans quelques instants ensemble. Tout va bien d'abord Clémentine?
Très bien.
Vous êtes
très heureuse d'être là en plus.
Resplendissante.
Oh merci, c'est gentil.
Toujours les yeux qui brillent comme ça.
Non, mais c'est chouette.
Pourquoi on n'est pas tombé amoureux l'un de l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas. À un moment donné, moi, je vous aimais beaucoup. À un moment donné, vous l'avez pas vu.
Vous m'avez pas fait passer.
Bon, savez, non.
C'était un feu de paille.
Mais il y a un moment, on avait déjeuné ensemble.
Oui,
je suis trop impressionné.
Enfin, c'est ça. Ah ouais.
Non, mais voilà. Mais maintenant, ça dure plus longtemps.
Ah, c'est vrai.
Vous voyez ce que je veux dire.
Maintenant, on sait que ça va bien se passer.
On va pas se quitter.
Non,
mais
l'amour, ça craint.
Non. Question.
Et là, t'as envie de parler?
Rien. Hein.
On va voir si cette bande vous connaît bien, Clémentine Sévaré. Répondez à ces questions, notamment de savoir, Clémentine a une petite collection d'objets qu'on peut qualifier de kitsch. Que collectionne-t-elle?
Des bouteilles de parfum?
Non, pas des hommes, pas des parfums.
Des pins?
On n'est pas loin de l'idée.
Les coucous?
Des poupées?
Non.
Des pins? Des aimants de frigo?
Ah, des magnets?
Des magnets?
Non.
Des magnets.
Des couteaux?
Non.
Des couteaux,
Des
bijoux?
Alors, non, c'est décoratif.
Ah, les
des lampes,
des assiettes.
Oui. Alors, attends, des lampes, mais pas n'importe lesquelles.
Le chevet.
Non.
À pied.
Non.
Ah, les lampes, ça suffit.
Des lampes à pétrole.
En coquillage.
Oui.
J'aimerais bien
qu'on ait une collection. Très bien. Ce qui est dingue, parce que si tu avais eu un casque,
mais moi aussi,
j'aurais sûr.
Ah, bah voilà.
J'aurais été sûr que quelqu'un t'a soufflé.
Non.
Comment t'as trouvé des lampes en coquillage?
Parce qu'on a dit lampe plus kitsch, et moi j'aime beaucoup les lampes en coquillage aussi.
Plein de couleurs. La première, c'est Pierre Cassinière qui me l'a offerte. C'est un grand ami comédien. Et voilà, et j'adore, et c'est
il y a des
beau,
poissons, il y a des petites pieuvres,
oui.
Oui, à l'intérieur, avec des lampes.
Vous me faites très peur, là, dans ce coin.
Attends, la table.
Ça ramasse les poussières.
On va peut-être faire des échanges.
Mais oui.
Pourquoi? Parce que t'en as, toi?
Ah, mais j'en ai une quinzaine, oui. Oui, ça les a déjà.
J'en ai 5-6.
Moi, j'ai une ex, je l'ai transformée en lampe. Elle a la consistance du coquillage.
Oui,
elle est momifiée.
Quelle activité peut occuper Clémentine Sévaré jusqu'à 4h du matin?
Jouer aux jeux vidéo?
Non.
Je sais pas, regarder des films,
regarder la télé,
faire du sport,
faire la cuisine,
regarder un best-of de Taratata.
Oui, Marina.
Mais tricote aussi, mais en fait, on est un peu
âme. Vous êtes un peu la même.
Tu crochettes aussi?
Je crochette plus. J'ai arrêté de
crocheter. Crochette.
Excusez-moi, je crochette plus, ça veut dire quoi?
Je crochetais quand j'étais petite avec ma grand-mère.
C'est trop fatigant de crocheter?
Non, j'aime bien le truc à deux.
Nagui, souviens-toi d'où elle vient. Suisse.
Ça vous a aidé à arrêter de fumer?
Je crois.
Mais moi, non, c'est juste parce qu'on crée, ça se tricote.
Pardon. Mais il se passe quoi? Non, c'est un monsieur qui a laissé son portable allumé, mais quel est le...
Ben, c'est-à-dire que ça délie les pensées.
On mouline.
Oui,
c'est ça, dans la tête.
C'est-à-dire que ça, on tricote la pensée, là, moi j'ai besoin, ça délie ma pensée.
Mais
je pense.
Mais vous faites quoi, des napperons, des slips?
Ah non, je fais rien, des couvertures, des...
Comment tu passes de napperons à slips?
Des napperons ou des slips en tricot?
En s'asseyant sur la table.
Non, mais.
Des slips en dentelle de Calais, ça peut être joli.
Oui, c'est vrai que ça peut être joli. Non, c'est juste que...
Des écharpes, des pulls.
Mais par contre, en ce moment, je peux pas. Parce que quand on écrit, si vous voulez, on n'écrit pas. Quand on tricote, forcément, sinon on tricoterait pas. Et c'est ça le problème. Faudrait qu'on écrive en même temps. Faudrait trouver un moyen pour que l'aiguille à tricoter soit aussi un truc.
Vous dictez.
Mais on crée, c'est génial de créer. Il n'y a rien. Enfin bon. Puis tout d'un coup, pof, il y a une couverture. Non, mais c'est génial.
Et on est en dessous.
Mais non, mais franchement, c'est plein de couleurs. C'est à peu près comme une lampe Valoris, mais en tricot.
Quelle est la particularité?
Hyper louche.
Finalement, je suis en train de me rendre compte. On a bien fait de pas être ensemble tous les deux, parce que là, j'aurais eu quand même du mal entre les lampes et le tricot.
T'es bien avec un slip en dentelle. Faites du bruit. Ah merde, j'ai perdu mon slip. Il n'y a pas d'élastique.
Quelle est la particularité que Clémentine Sévaré peut rechercher chez un homme? C'est justement pour ça qu'on pourra
sa
pas
douceur,
être...
Sa douceur, sa gentillesse.
On ne pourra pas être ensemble.
Ah, sa taille, un
la
grand...
Taille,
sa
taille. La taille.
Vous êtes très désagréable.
Pardon.
La taille, l'intelligence. Ça pouvait pas matcher. Hein.
Quoi, la musculature,
la
posante,
quelqu'un de mutique, un peu, un mec.
L'intelligence.
Rassurant, ben non.
Quelqu'un qui bosse pas dans
douceur,
le milieu.
La féminité.
Je sais pas.
La violence.
Non.
Enfin, non.
Premier truc à chercher.
Ah, la viande, il mange la viande. Non, je sais pas. J'essaie de trouver
calme-toi.
Non,
non,
alors, oublie par rapport
okay,
à moi. Elle cherche quelqu'un qui.
D'humain.
Sache cuisiner.
Non, 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 qui physiquement, voilà, physiquement, ça lui plaît. Il lui plaît, mais pourquoi ?
Il y a un pied beau.
Non.
Des défauts.
Non.
Qui a des cicatrices, non. Des tatouages.
Très velu,
la barbe.
Velu.
Des cheveux longs.
Des cheveux longs.
Elle est attirée par
un
des
œil
hommes
de verre.
Tatoués.
Qui sont généralement...
Décédés.
Imberbes.
Qui ont fait de la prison.
Plus âgés, plus jeunes.
Plus jeunes.
Plus jeunes.
Ah oui, ah mais je recherche pas ça.
Donc vous avez constaté que globalement, il se trouvait que vos histoires étaient avec des hommes plus jeunes.
Je pense que c'est même pas... Enfin, c'est comme ça, mais... Voilà.
C'est un hasard.
Enfin, je veux dire, oui.
Et vous avez dit dans une interview, j'adore cette formule, c'est pas une question de chair, c'est une question d'énergie.
Ben oui, c'est pas du tout physique. Enfin, heureusement, ça serait misérable.
Pas la peau.
C'est un truc d'énergie et de façon de vivre.
C'est pas la peau.
Ben ouais, c'est ça.
Non, non, c'est un truc d'énergie vitale et puis de passion et d'attente sur la vie. Quelquefois, les êtres, que ce soit des hommes ou des femmes, à partir d'un certain âge, ils ont plus cette espèce de réjouissance ou d'énergie ou d'attente ou de rêve, vous voyez, de se dire, ouais, il va se passer ça. Alors, parce qu'ils sont un peu, voilà, c'est tout. Mais bon, après, il y a des gens qui sont vieux à 20 ans, puis d'autres qui sont jeunes à 80. Regardez Nagui.
Non, mais je rigole.
Regardez-moi.
Attention, question piège. Pourquoi Clémentine Célarier est sûre d'être toujours bien reçue à France Inter?
Parce qu'elle est super pote avec Laurence Bloch.
Exactement.
Alors, à ce propos, on était dansé toute la nuit. On a été au bus Palladium, on était
sur
la douche hier soir. Ouais. Et on s'est croisés ce matin, on s'est quittés à 6h du matin.
Avec
on a
Laurence Bloch,
oui.
La patronne, vous
avez dit. Vous avez au bus Palladium?
Oui, au bus, on a été. Non, mais on a fait 2-3 boîtes. On s'est dit, allez, on s'est mis les paillettes et tout, on est parti.
Mais c'est
énorme.
En tout cas, c'est la vie que vous aviez, en tout cas, régulièrement
oui,
avec elle.
Oui.
C'est votre copine. Ok, oui. Très bien. Donc on va. Mais c'est pas pour ça qu'on va bien vous traiter.
Ah bah non, j'espère.
Non, pas du tout. Parce que nous allons.
Bah, si, un petit peu en même temps.
Non, pas du tout. Bah, non.
Bah, elle est là.
Le film est en salle. Non, en plus, elle est pas là. Le film est en salle depuis hier. Yeah. Ça s'appelle En mille morceaux. Réalisé par Véronique Mériadec. C'est son premier film.
Oui.
Vous lui avez fait confiance. Elle vient du monde du documentaire. Je précise ça parce que le film, et c'est d'ailleurs la manière dont il s'achève avec un texte justement de la raison pour laquelle ce film a été fait, pour saluer par respect, pour honorer ceux qui pardonnent ou ceux qui rencontrent les criminels. Le point de départ, vous êtes une maman, il y a 25 ans, un criminel a tué votre fils et c'est la rencontre entre ce criminel et vous à huis clos.
Mmh, absolument. Elle décide, cette femme Nicole Parmentier, d'aller le rencontrer parce que je me suis toujours dit qu'elle était morte quelque part. C'était comme une enveloppe qui essaye de se reconstruire et qu'elle se dit en dernière cour, ou peut-être qu'elle l'attend depuis des années, que c'est en rencontrant cette personne, car c'est une personne, voilà, même si c'est un meurtrier, qu'elle va peut-être trouver une lumière, quelque chose. Enfin, avec toutes les violences qu'elle ressent quand elle le rencontre, l'envie de le massacrer, l'envie de le... Mais elle le fait pas.
C'est ce qu'il dit d'ailleurs lui au début. Il se demande Serge Iraboukine, avec qui vous partagez ce huis clos. Vous êtes tous les deux à l'image et en permanence pendant ce film dans une seule pièce. Mmh. Et l'exercice de réalisation est absolument impressionnant. Dieu sait si j'aime autant le fond que la forme dans ce film, parce que c'est extrêmement, c'est bien monté, c'est bien filmé. Il y a des changements de profondeur. Il y a des plans sur plans, du cut comme ça sur Iraboukine quand il explique ce qui s'est passé dans son enfance. C'est des plans sur plans. Généralement, on évite toujours les plans sur plans, mais là, c'est un effet volontaire et qui structure et qui nous fait rentrer encore plus dans sa fêlure, parce que en fait tout est là pour expliquer que le vrai problème, oui, c'est un criminel, mais le vrai problème, c'est ce qu'il a subi et ce qui l'a mené à devenir un criminel. Mais qu'est-ce qui pousserait une mère à chercher à comprendre ça? Elle a perdu son enfant.
Alors il y a quelqu'un de France Victime qui va venir nous rejoindre. Ben ce qui, c'est-à-dire que c'est pas, je pense, qui la pousse, c'est que qu'est-ce qu'elle peut faire surtout avec ça en fait. Et je pense que quelque part quelqu'un a peut-être, lui a peut-être parlé de ça, de le fait de rencontrer. Elle s'est dit peut-être je veux le tuer. Je veux
c'est
tuer.
Le psy au début qui encourage aussi le criminel
absent qui joue par donc Serge.
Oui. La mère, oui.
Et donc elle, je pense que c'est le seul truc qui lui reste. Il sort de prison, elle doit se dire, elle doit être hantée. Enfin, j'essaie d'imaginer ça, c'est très difficile à imaginer, mais elle doit être hantée par le fait d'essayer d'avoir quelque chose, une toute petite lumière, de comprendre quelque. Qu'est-ce que c'est? Qui est derrière cet acte horrible, quoi? Qui est derrière ce... Et c'est ça, moi, qui m'a plu dans ce film.
Alors, il y a deux choses qui nous sortent du huis clos, sont les flashbacks, les images.
Oui.
Aussi bien celles qui nous emmènent dans la mémoire, sont des images presque psychanalytiques de ce qui a pu se passer dans l'esprit de ce criminel, brillamment joué par Serge Riaboukine, où on voit qu'il y a eu des maltraitances, où on voit qu'il y a eu même des maltraitances entre enfants, avec un clin d'œil sans mauvais jeu de mots à Luis Buñuel et au chien andalou, dans ces souvenirs. Et de votre côté, ce sont des souvenirs de votre fils, qui sont des souvenirs de rire, de joie et de bonheur. Films. Mais il y a vraiment ces deux flashbacks là qui s'opposent, la douleur chez l'un et des bons souvenirs chez l'autre.
Ouais. Et puis c'est une miroiterie aussi. C'est-à-dire que c'est l'arrière-salle d'une usine de miroiterie qu'a l'oncle de Nicole Parmentier, mon personnage. Et du coup, il y a ce jeu avec... mais merci pour la mise en scène, parce que Véronique écoute, et c'est vrai que c'est incroyable. Ils ont travaillé beaucoup, on a tourné ça à Dreux en 15 jours sans un rond, dans le froid, avec des loges très chauffées, c'était dingue. Avec ces miroirs, tout avait été construit par toute une équipe là-bas, enfin, c'est dément, les gens se sont complètement réunis, il y a eu une synergie.
Non mais l'image des miroirs est forte, parce que destin brisé des deux côtés.
Oui, c'est ça.
C'est un lieu improbable pour une rencontre, pour face à face comme ça.
Absolument.
On aurait pu imaginer un salon, quelque chose d'un petit peu plus confortable. Tout de suite, on a la sensation que c'est un règlement de compte dont il est question.
Oui, et puis je pense qu'elle, elle ne sait pas. Jusqu'au dernier moment, elle doit se demander si elle y va, si elle y va pas, si elle y va. Enfin, et puis elle se protège beaucoup. Bon, elle est dans une espèce de, elle a une espèce de parka. On a vachement travaillé sur les costumes, et puis il fallait prendre du recul parce que il fallait pas un truc comme ça. Quand vous attaquez un rôle comme ça, vous avez envie de pleurer tout le temps. En fait, il faut surtout pas parce que il y a 25 ans que ça s'est passé. Puis je me suis dit que c'était quelqu'un qui était vraiment mort, comme une enveloppe encore debout, mais enfin vide de.
Elle ne pleure qu'une fois lorsqu'il s'agit de croyances, de foi, de religion. Ça, c'est un petit passage qui m'a un tout petit peu surpris.
Ouais. Parce que foi,
oui,
pas de religion.
Elle le dit, mais elle entend une voix.
Oui.
Elle a une croyance, en tout cas. On ne parle pas d'un dieu en particulier, mais elle a une croyance.
Non, parce que moi, je ne voulais pas qu'on parle d'un dieu en particulier. Donc, ils ont été d'accord avec moi, parce que ça, c'est la foi, c'est-à-dire en l'être humain. C'est-à-dire la petite voix, c'est le truc d'espoir. Ça, c'est un petit peu personnel. C'est des trucs par rapport à la lumière qu'on peut... Parce que moi, je crois en l'amour. Sinon, je me dis que je serais morte depuis longtemps et que la vie n'a pas de sens. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder le début du Human, qui est un témoignage d'un homme noir américain qui dit qu'il a rencontré l'amour alors qu'il a assassiné
prison.
Un assassin en prison.
Ouais, oui,
et qu'il pleure à ça. C'est pour ça que moi, je voulais parler de ça.
Non, qui explique, personnage joué par Serge Riaboukine, qui explique qu'il a subi des actes de violence par ses parents lorsqu'il était enfant.
Oui.
Et qu'il avait comme explication de son père, si je te frappe, c'est parce que je t'aime. Et donc, il a grandi en apposant les deux gestes,
absolument.
En se disant, donc, plus
je
frappe, souffre,
plus je fais mal, plus je...
C'est de l'amour.
Absolument.
Et donc, il a recréé ce schéma-là en grandissant et en allant jusqu'à tuer.
Et voilà, il a été en prison. Et un jour, une femme, alors que cette femme, qui était la mère de la femme qu'il avait tuée et de sa fille, donc il a tué deux femmes, la sienne, et il a rencontré la mère de cette femme qui, au lieu de le haïr, c'est ce qu'il dit, elle m'a montré l'amour. Et si vous voulez, le truc c'est ça, c'est en dehors de ma condition, de ma situation, elle n'a pas jugé ma situation, elle a essayé de chercher dans moi, ça. C'est ça moi qui m'importe
savez,
dans ce film.
Il y a une image qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux d'un papa dont le fils a été tué par quelqu'un qui est jugé au tribunal, et le père vient témoigner à la barre, et il s'adresse directement au criminel, et lui dit « je te pardonne, parce que c'est toi qui souffres », et il fait une déclaration à l'assassin de son fils, qui fait que, et l'image est vraiment, enfin, de le raconter, ça me file la chair de poule, parce que la juge fond en larmes. Ben oui. Et en sanglotant, elle dit, séance suspendue, on se reparle dans un quart d'heure. Et toute la salle est totalement troublée. Et pendant que la juge se lève pour partir, le criminel s'approche du père. Donc on voit les policiers autour qui ne savent pas comment se comporter en disant, mais qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Et en fait, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Je crois pas qu'on soit tous prêts hein, pour le pardon et la résilience, parce que c'est aussi le propos du film. C'est on se projette à la place de cette mère. On n'aimerait pas être à sa place, mais comment réagirons-nous si on était de près ou de loin
En tout cas, on sait qu'il y a une alternative. Parce que cette loi, elle existe,
de la justice restaurative.
Et elle existe grâce à Madame Taubira depuis 2014. Oui. Donc on sait qu'on peut aussi essayer, pas seulement de pardonner, mais d'entendre.
Et ça évite les récidives.
Évite les récidives pour les auteurs des crimes et pour les victimes, ça les aide. Enfin, c'est à comprendre. Enfin, ça fait avancer, ça ouvre, ça fait quelque chose, quoi. C'est pas, c'est surtout ça qui est intéressant.
C'est le sujet qui vous a plu?
Ah oui, et puis alors, mais Véronique m'a dit c'est un film impossible. Alors je me suis dit, ah, c'est impossible, c'est intéressant.
On pourrait penser que déjà ça pourrait être une pièce de théâtre. C'est un véritable huis clos. Il y a que deux personnages. Oui. Je redis tout le bien que je pense de la réalisation et de sa force et des images, des flashbacks, de cette opposition. On se demande même si, comme disait Leïla, c'est pas un duel à la western dans un lieu improbable où elle a un sac. On ne sait pas ce qu'il y a dans le sac et on se demande si ça va pas mal tourner. Lui même dit tuez-moi comme ça, voilà, moi je m'en veux et vous ça va vous soulager et n'en parlons plus, mais c'est pas la solution.
Non, puis elle dit un mort ne remplace pas un autre, etc. Puis elle veut, enfin,
vous allez même plus loin, c'est-à-dire que tant qu'il est là et que vous n'avez pas pardonné, votre fils est encore
le fils de Nicole Parmentier est toujours en elle lui écrit pendant des années en plus, puis ensuite elle veut
que les lettres soient lues par le criminel.
Oui, par le criminel, parce qu'elle veut. Il y a une espèce de rage. Qu'est-ce qui était beau, c'est une exploration de l'âme, quoi, de tout ce dont on est capable dans le pire, pas dans le pire d'ailleurs dans ce film, dans le meilleur aussi, dans essayer de chercher la faille qui nous mettra vers la lumière. Alors ça, c'est pour moi, c'est ça le but, quoi. Et c'est ça, ce que vous avez raconté sur ce père, c'est incroyable de faire ça. C'est vraiment parce que du coup, ça répare des âmes, je crois. Enfin.
D'une mère ou d'un père frappé par un criminel, et avec la perte d'un enfant, n'est pas forcément de chercher le bien du criminel.
Mais bien sûr. Non, mais c'est pas de chercher le bien. L'alternative de la justice restaurative, c'est d'essayer d'aller vers, c'est pas pardonner forcément, mais d'aller vers, donc de comprendre, et du coup, ça fait du bien à tout le monde, apparemment. Une fois qu'on y est, enfin, vous voyez, c'est comme quand on saute dans une falaise, faut y aller, quoi.
Et vous aviez vu Human avant d'accepter ce rôle,
court-circuité. D'accord. Et ce qui est génial chez cet homme, c'est l'amour qu'il porte, déjà. Il pleure quand il dit cette femme m'a montré l'amour. Il pleure pas parce qu'il est triste, il pleure parce qu'il a vu la beauté et parce que il peut mourir maintenant. Il a vu, quand on connaît le sens de la vie, c'est-à-dire l'amour, il a vu quelque chose d'extraordinaire, d'au-delà. Et c'est aussi l'idée de l'au-delà chez nous qu'on a. On a de l'au-delà en nous,
Et comment on porte un personnage comme ça? Parce que finalement, la rencontre mène éventuellement à un pardon, c'est un peu le principe de cette nouvelle loi, mais c'est aussi essayer d'être en contact avec la personne qui a été en dernier avec l'enfant qui disparaît.
Oui, c'est ce qu'elle dit,
C'est quand elle lui demande de raconter finalement ses derniers instants, c'est pour
le dernier
faire revivre.
Comment
est-ce qu'on porte un personnage comme ça? Comment on se prépare à ça? Parce qu'il faut, bien doser dans l'interprétation aussi pour pas que ça soit caricatural.
Mais justement, donc en fait, il faut prendre. Enfin, moi, quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup touché. Quand j'ai vu des vidéos, ensuite, quand j'ai vu, tout un tas de choses.
Human, je ne l'ai pas dit. C'est Yann Arthus-Bertrand, qui a réalisé ce documentaire.
Qui est magnifique, extraordinaire.
C'est beau.
Exceptionnel. Il faut prendre du recul, en fait. Une fois que vous avez envie d'aller dans cette falaise, parce que c'est c'est une un gouffre d'émotions et de sentiments humains et d'extrêmes. Et c'est passionnant. Ben, il faut prendre du recul, travailler en se disant qu'il faut surtout pas avoir le nez collé à la vitre. Il faut travailler. En fait, on a travaillé, on a été dans le décor, on a travaillé le texte, on a remouliné ça. Et donc et puis après, quand on y est avec Serge, qui est incroyable dans le film, Serge Daboukine, on faisait attention à ne pas trop être tout le temps ému par les larmes, parce que voilà, encore une fois, c'est des gens qui sont séchés, desséchés par la douleur.
Ouais, donc on a essayé. En tout cas, ce rôle vous a permis d'avoir un prix d'interprétation au Global Motion Picture. Voilà,
oh, yeah.
C'est chic.
Oh, c'est très chic. You know.
Mais non, mais c'est la classe.
Ben oui, ben écoutez, pour une fois, oui, c'est la classe.
Pourquoi ça pour une fois avoir été.
Mais non, mais c'est vrai, j'en ai pas eu en France. Mais bientôt, quand je serai très vieille ou morte.
Le film est sorti depuis hier. On sort pas indemne hein, de la salle, faut quand même le dire. On est loin d'une comédie, mais on est très proche de la réalité. Et puis surtout, on se projette, on se dit, ça donne à réfléchir sur soi, ce qui est toujours important et ce qui fait du bien dans
la
vie.
Merci.
Dans cette intelligence, en mille morceaux, c'est au cinéma depuis hier avec Clémentine Serrier qui est notre invitée et Serge Riaboukine, première réalisation de Véronique Mériadec. Père Albert, il faut aller voir ce film.
Oh là d'accord. Là. Mais écoutez, Nangui, il faudrait que je sois un homme de peu de foi. On évoquait cette notion à l'instant. Pour douter, oui.
Non, douter plus tard.
Pour douter du succès imparable de 1000 morceaux. Non seulement cette histoire poignante nous tient constamment en haleine, mais en plus, Clémentine Sellarié, coucou Clémentine.
Bonjour mon père.
Montre qu'elle est aussi à l'aise dans la tragédie que dans la comédie. J'ai été bien sûr bouleversé par ce film, car il aborde un thème auquel je suis très sensible. Le pardon des offenses et la repentance, dans mon boulot, sont des impératifs fondamentaux. Vous connaissez la formule, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons, etc., ceux qui nous ont offensés. Une formule dont ce matin, j'ai cru une fois de plus, Nangui, qu'elle vous était complètement étrangère. Alors que GNB, notre rédacteur chef boiteux, finissait de vous faire le pitch d'un mille morceaux, je vous ai vu, Nangui, malgré son ostéoporose, fracturer les côtes de GNB en lui piétinant le thorax à grands coups de talons compensés de vos souliers le boutin, tout en hurlant. C'est toi, GNB, que je vais exploser en mille morceaux. Mais, oh mon maître, en quoi vous ai-je offensé? L'autre jour, Les femmes battues avec Muriel Robin. Aujourd'hui, Les meurtriers d'enfants avec Clémentine Sellarié. Bonjour la déconne, t'as décidé de plomber définitivement l'ambiance de la bande originale. Mais, oh mon maître, dans ce film dont vous direz, je l'ai marqué, regardez bien sur votre fiche, qu'on n'en sort pas indemne. Dans ce film, disais-je, vous pourrez demander quelle croyance, quelle valeur défend Nicole, alias Clémentine. Ah, bah ça c'est pas con, tu t'en tires bien, Jane B. Je suis pas prêt pour le pardon, mais je te pardonne quand même, parce que c'est toi qui souffres. Voilà, Clémentine, comment se prépare la bande originale. Mais de même que j'ouvre volontiers la portière de ma camionnette bâchée cuir clouté aux jeunes recherches dont le cœur est lourd d'un repentir qui a du mal à sortir, dont la poitrine est oppressée par les turpitudes inavouables commises en solitaire ou pire encore entre camarades, eh bien Clémentine, je suis à ta disposition, j'ai une lampe valorise dans ma camionnette, pour une confession flash. Mais je vois que Nagui piaffe d'impatience, alors ce sera pour la prochaine fois.
Voilà, merci Albert.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Nous recevons dans une dizaine de minutes Olivia Ponce, qui est porte-parole de la Fédération France Victimes, dont vous parliez tout à l'heure, Clémentine Sellarié, pour savoir justement, parce que ce film est très proche d'une réalité. C'est pas une histoire vraie, mais c'est ça pourrait être vrai. Et c'est un mélange de plusieurs histoires vraies, évidemment, poussées en fiction. Et on saura quels sont les objectifs, justement, de France Victimes. Puisque dans le nom il y a là, ce n'est pas, ce sont d'abord les victimes qui sont le centre d'intérêt. Et c'est vrai que ce travail de résilience fait d'abord du bien à la victime, parce qu'on a l'impression, comme on l'a présenté là depuis le début d'émission, c'est écouter le criminel, éviter qu'il ne recommette un crime. Elle le dit d'ailleurs dans votre personnage dans le film, dit promets-moi de ne, il demande promets-moi de ne plus toucher un enfant, puisque c'est tout cela est sur une toile de fond d'actes de pédophilie. subie par le criminel. Et c'est vrai que tous les psys le diront, c'est souvent des victimes d'actes de violence ou de pédophilie qui recréent ces schémas quand ils le deviennent. La première chose que fait un psy lorsqu'il parle à un enfant victime de pédophilie, c'est de lui expliquer ce n'est pas normal et il ne faut pas recréer ce schéma plus tard pour pas qu'ils ne deviennent eux-mêmes des criminels. On en parle dans quelques instants, mais un peu de bonne humeur, n'est-ce pas?
Ah, voilà, dis donc.
Avec oui. Marie Laronne.
Allez, Marie, là. Débrouille-toi.
Ah, les amis. Alors.
Ça va, sinon t'es un peu malade,
lundi, oui. Lundi, oui, en plus je suis un peu malade. Lundi, comme tout le monde, j'étais au travail quand j'apprenais le décès de Charles Aznavour et j'étais avec quelqu'un qui avait des billets pour aller le voir le 8 novembre à Boulogne. Et c'est quand même dingue que non seulement à 94 ans tu travailles, mais tu as du succès. Parce que 94 ans, tu serais le stagiaire qui fait des bourdes, tu vois. Tu serais là, ah ouais, non mais c'est encore Charles qui avait du papyrus dans la photocopieuse, ça bourre. Tu vois, je comprendrais. Mais là, t'étais un des meilleurs. Ce qui m'a fait me poser la question suivante, et finalement, le travail, est-ce que ce serait pas la santé? En tout cas, le travail, ça conserve. C'est comme une espèce de saumure, mais sans les odeurs. À moins que vous soyez athlète professionnel ou fabricant des poisses, auquel cas, l'odeur est partie intégrante du travail et gage de sa qualité. Mais sinon, donc, est-ce que viser la retraite, le repos, c'est pas un peu un leurre? Observons un peu les vieux autour de nous. Non, pas vous, mais oh, arrêtez de le prendre personnellement comme ça. Non, Cher, la chanteuse, 72 ans, elle ressort un album, elle tient 5 minutes en gainage, très clairement, ça taffe. Ariel Dombal, 65 ans selon la police, 72 selon les manifestants. À l'affiche des Parisiennes qui trimballent des gambettes incroyables sur tous les plateaux télé. Arnold Schwarzenegger, 71 ans, allez faire un tour sur son Instagram à l'occasion. Il est en préparation du prochain Terminator. Ça ne rigole pas du tout à la gym. Il vous porte, vous, moi, tout le monde. C'est incroyable. Sylvester Stallone, 72 ans, il a fini Creed 2, donc techniquement c'est Rocky 8 pour les gens qui gardent le compte. Et il se prépare à Rambo 5. Là aussi, les mecs sont très sérieux. Comparant à des gens qui ne travaillent pas maintenant. Par exemple, Camilla Parker Bowles et le prince Charles. Bon, ils ont le même âge, voire sont plus jeunes que les gens que je viens de citer. Et eux, mais t'as peur de leur faire mal en leur tendant un peu trop brusquement un muffin, tu vois. Et pourquoi? Parce qu'ils travaillent pas. Et oui, c'est la reine qui fait tout le boulot dans ce pays. D'ailleurs, on le voit, Elisabeth, elle est figée physiquement à 130 ans, mais ça fait longtemps qu'elle a le même physique, alors que son fils, il se momifie sous nos yeux. Ils sont sur deux courbes inverses. Bientôt, elle aura l'air d'être la fille de son fils.
Exact. Ouais.
Et parce qu'au fond, la réalité, c'est que c'est une vaste arnaque, cette histoire de retraite. Je veux dire, si on remonte le début de la retraite, comme on l'entend aujourd'hui, c'est autour de 1945. À l'époque, l'âge de la retraite est fixé à 65 ans. Sauf qu'à l'époque, l'espérance de vie est à moins de 70 ans. Donc, c'est une manière de te faire miroiter un truc qu'a priori, t'auras pas vraiment le temps d'apprécier, tu vois. Te dire, ah oui, tu détestes ton job, mais c'est pas grave, c'est après que tu vas kiffer, et le après, il durait 12 minutes, tu vois. Or, aujourd'hui, on y survit à cette retraite, mais pourquoi faire? La durée de vie en EHPAD, tous âges confondus, tout état de santé confondu, c'est moins de 3 ans. C'est-à-dire que tu arrives à 72 ans avec la routine fitness de Cher, ou à 98 ans nourrie à travers une sonde qui passe par les yeux, t'as la même espérance de vie. Et je blâme ni les EHPAD ni les gens qui y travaillent, mais ça veut dire qu'à partir du moment où tu deviens plus passif qu'actif dans ton dessin, bah, tu risques de pas durer longtemps. Alors évidemment, c'est bien beau de souhaiter aux gens de bosser jusqu'à la fin, encore faut-il aimer son travail. Alors a priori, autour de cette table, on a la chance de faire des trucs qu'on aime. Je dis chance parce que c'est pas uniquement dû à notre volonté et notre courage. Je pense qu'on est tous nés dans des circonstances qui ont fait qu'on était aussi un peu au bon endroit au bon moment. Je veux dire, si ça marche pas professionnellement, c'est pas forcément parce que t'as la flemme. Le mec qui avait un vidéoclub exclusivement dévoué à la filmographie de Kevin Spacey, le tout à Alep, bon, conjoncturellement, c'est un peu tuile, quoi. La faillite, c'est pas de sa faute. Tout ça pour dire, je comprends que selon son boulot et sa pénibilité, on aspire à une retraite bien méritée. Mais il y a d'autres choses que le travail à proprement parler pour s'occuper. Et c'est aussi la responsabilité des actifs de sortir les personnes âgées du désœuvrement en commençant par pas les prendre pour des neuneux. Parce que c'est vrai, plutôt que de se demander ce dont les personnes âgées ont besoin, on pourrait se demander pourquoi nous on a besoin d'elles. Tu vois, si vous avez envie d'aller voir une expo, peut-être vous pouvez emmener votre grand-mère. Ou plutôt que d'essayer de lui apprendre à utiliser une tablette, elle pourrait vous apprendre à
tricoter,
reconnaître des essences d'arbres, faire des clafoutis, peu importe. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas uniquement leur rendre service, les vieux, il faut les laisser faire des choses. Si Aznavour est chanté à 94 ans, c'est parce qu'il aimait ça. Et si tu n'aimes pas ce que tu fais à 94 ans, bah alors quand?
Bravo,
France Inter, Mehdi, la bande originale.
Beau. Ouais, ouais, c'est gentil. Ouais. C'est drôle, c'est joli, c'est beau,
c'est vrai, en plus.
C'est Marina.
Et tout ça, c'est bénévole, c'est incroyable.
Alors fais gaffe, j'ai déjà fait cette vanne, c'est dangereux.
Ça peut être compliqué.
T'as coûté cher celle-là.
On va faire une petite vidéo.
Ouais, ouais, attention.
Avec l'accent.
On va reparler dans 1000 morceaux, ce film signé par Véronique Mériadec. C'est son premier film, vous lui avez fait confiance, Clémentine Salarié.
Oui.
Vous lui avez demandé, elle avait fait un court métrage, vous avez vu son travail?
Non. J'ai senti une pugnacité une persévérance, une l'âme d'une guerrière, d'une femme. Ça faisait 3 ans qu'elle voulait faire son film. Elle l'a fait à bout de bras, quoi, avec vraiment avec rien, avec la solidarité des gens. Elle a eu aucune aide de rien, de personne, mais jusqu'au bout. Hein. Donc c'est et donc elle a mis 5 ans en tout, parce que ça fait 2 ans qu'on a tourné le film, le temps que.
C'est pas vrai.
Mais si, parce qu'après, quand on a, voilà, c'était compliqué, quoi. Mais voilà, il est sorti, et pour nous qui sont sortis, déjà c'est, vous voyez, l'avant-première à Paris, non mais au Gaumont, c'était génial. Marrant.
Mais comment elle a financé si elle a pas été aidée, si elle a pas.
Elle va vous le dire exactement. Moi, je sais pas exactement. Elle a eu, ça a coûté 50 000 euros, ce qui est de l'argent évidemment, mais pour un film,
c'est rien du tout.
Bon. Nous, avec Serge, on a rien eu. Il y a plein de gens qui n'ont rien eu, d'ailleurs, dans l'équipe. Les techniciens ont été payés, je crois. Enfin, je vais pas dire de conneries parce qu'elle est là, mais hein, si ça, je dis pas de conneries, c'est à peu près ça, voilà.
Un diamant, ouais, c'est ça.
Mais elle a eu
pourtant,
l'aide.
Elle porte autour du cou un diamant énorme. c'est étonnant, ça.
Non, ça a été vraiment un truc. Elle est incroyable, quoi. C'est une femme. Moi, j'ai très envie de retravailler avec elle. Et puis, elle a cette maîtrise, comme vous en parliez tout à l'heure.
Sur la technique, ouais.
La technique, de rendre ce huis clos, finalement, très, très. Comme une espèce de montagne russe. Oui. Elle va dans plein de méandres.
C'est bien que des artistes comme vous, ou comme Serge Riaboukine, acceptent de partir dans des aventures comme ça. Parce qu'on va, pas se mentir. Peut-être qu'on en parlerait. On n'en parlerait pas si vous n'étiez pas, si vous ne l'incarniez pas. Et donc passer 1h30 à parler dans 1000 morceaux, c'est aussi grâce à vous. Donc que vous le fassiez, ça veut dire aussi soutenir un projet, y croire et aller au bout de votre travail et d'acteur et de faire la promotion et de communiquer.
Oh bah oui, parce que c'est des sujets qui sont des ouvertures, quoi. Enfin, en ce moment, je trouve que c'est précieux d'essayer d'ouvrir des petites portes pour voir des rayons
lumière.
D'espoir et de lumière.
On va en continuer d'en parler évidemment de ce film en 1000 morceaux. Il est déjà sorti hier. Allez le voir parce que vous apprendrez des choses, non seulement sur la loi d'ailleurs, sur ce qui se passe. On va en parler dans quelques instants de cette loi et de ce qui est possible pour aider les victimes. Mais surtout, je pense que c'est bien de le voir. Alors, évidemment, touchons du bois, croisons des doigts en disant ça, en espérant que ça ne vous servira jamais à rien. Mais si un malheur nous frappe, en tout cas, on aura eu l'expérience de voir ce film et d'après de gérer l'information comme on souhaite gérer.
C'est universel en fait. Enfin, je veux dire, sans avoir à souhaiter effectivement que un malheur quelconque nous arrive d'ailleurs, mais c'est sur cette espèce d'ouverture et de quel que soit d'ailleurs, hein, pas forcément quand c'est criminel. Enfin, on est souvent confronté à, ne serait-ce que dans le dialogue, dans l'écoute, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, parce que ça éveille des débats. Hein, quand on a été beaucoup en France le défendre, on va en France le défendre dans des salles diverses avec Serge, avec Véronique.
Présenter le film.
Oui. Mais après le débat, c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup d'amour en fait. Les gens s'interrogent. Il y a une femme qui nous a dit à Jonzac, je crois, nous a dit mais merci de nous bousculer. C'est joli de dire bousculer parce que c'est pas on sort pas de là désespéré. Je dis pas ça pour vendre le film, quoi que.
Non mais vous avez raison. Non mais on sort pas désespéré.
C'est vrai qu'on sort en se disant c'est une autre voie.
Et puis il y a ceux qui se posent encore des questions sur la manière d'éduquer les enfants et qui n'hésitent pas à dire que une fessée de temps en temps, un petit coup de ceinture de temps en temps, c'est pas bien grave. Quand on voit ce film, on voit aussi et on entend l'impact de tous les gestes, de tout ce qui peut se passer, des dégâts absolument que l'on peut causer pendant l'éducation sur les enfants, mais avec une résonance qui peut amener jusqu'au crime. On peut pas imaginer aucun père qui dit une bonne raquette de temps en temps, ça fait pas de mal, ne peut pas imaginer qu'il est peut-être en train de fabriquer un futur criminel. Ça aussi, ça peut donner à réfléchir. La bande originale en musique, puisque Clémentine Célarier, évidemment, comédienne, musicienne, chanteuse, vous écoutez quoi ? Vous écoutiez quoi en 86 ? La Callas et Puccini, ça vous met dans quel
quel état d'esprit d'entendre ? Alors c'est marrant parce que ça illustre ce dont on parle, je trouve, en fait. Mais là, ça me vient à l'instant parce qu'on, c'est-à-dire que toute la fragilité, la douleur et le tragique de de la vie aussi, enfin de et en même temps la force et tout ce qu'on peut c'est l'art dans toute sa splendeur. Pour moi, c'est ça, ça défie la mort, ça défie. Hein, c'est d'une telle pureté, c'est tellement loin, c'est tellement au-delà que c'est. Et je l'ai redécouvert. C'est maman qui m'a fait découvrir ça, et je l'ai redécouvert après avec mes enfants. Voilà. Pourquoi parler de toute façon quand on entend ça?
Il y a la Callas et la Rousseau, en fait.
Oh non.
Et on choisit, vous avez choisi ouais, cette musique pour illustrer l'année 86, Clémentine Célarié. 86, c'est 37 de le matin. Alors autant vous dire que moi, j'ai une cohorte d'hommes autour de moi quand je dis que c'était Clémentine Célarié ce matin, qui m'ont forcément... Non mais vous ne pouvez pas imaginer hein, combien d'hommes ont fantasmé sur vous.
Non, mais si elle le sait.
Et 37 de le matin, pour eux, c'est une référence.
Ouais.
Ça vous a valu, c'est un film de Jean-Jacques Benex, ça vous a valu une nomination au César.
Ah oui, mais non, mais c'est un souvenir extraordinaire.
C'est agréable de véhiculer l'image de sexe symbole.
Oui, maintenant, enfin, quand je l'ai tourné, l'année où je l'ai tourné, c'était très chiant. J'allais en boîte de nuit, ah, c'est la nympho. Enfin, bon. On vous associe à une nympho, maintenant on a compris que non,
que c'était
amoureux
un
et nympho, c'est pas pareil.
Ouais,
donc
et puis c'était pas c'était
au
pas
début,
spécialement
c'est
vous.
Compliqué, ouais, voilà. Mais après, ouais. C'est pour ça qu'il y a des trucs bien dans l'âge et l'avancement dans
c'est
la
vrai.
Vie, c'est qu'il y a des trucs qu'on comprend, on se dit bah oui, mais en fait oui, il se trompait, c'est pas moi qui me trompe, c'est pas moi qui suis coupable. Bon, c'est vrai avec c'est un amalgame. Mais aujourd'hui, on est dans le royaume de l'amalgame, mais
clairement.
À l'époque, voilà, heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, sinon ça aurait été l'horreur.
C'est pas forcément péjoratif, être une incarnation de la féminité, d'être.
Enfin, ça restreint.
Pour les jeunes gens aussi.
Ça restreint ouais. Des trucs. Et puis, mais c'est pas grave, tout ça n'a pas de. C'est pas très grave, vous voyez, c'est franchement. De toute façon, non, après être connu, c'est le bordel. Enfin,
c'est intéressant d'entendre que, au moment, à l'instant T où le film sortait, vous l'avez pas bien vécu et que vous en avez subi des conséquences.
Bah non,
les gens n'arrivaient pas à cloisonner.
Et puis c'est quand même violent. Hein.
L'actrice, c'est le film.
Non.
Oui, mais bon.
C'est
même
qu'elle dit.
Et même professionnellement, ça veut dire que les gens n'ont pas réussi à
cloisonner.
Ah non,
professionnellement, c'est pareil. C'est un petit peu empire. C'est-à-dire que, on veut vous donner des rôles à peu près équivalents. Et puis, non, puis ce truc après reste. Après, il y a pire que d'être traité de sexy, franchement. Enfin,
oui.
C'est chouette. Enfin, je veux dire, bon, moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est vrai qu'il faut le délayer, le que ça.
Alors passons à la suite justement.
La carrière fait le reste.
Oui, faut choisir.
En 2013, vous écoutiez. Alors cette musique vous donne quoi comme émotion?
Ah
comme
mais ça
image?
C'est le groove, c'est tous les trucs de tout ce qui est advenu de la funk de James Brown de je sais pas, c'est ce qu'on écoutait avec mes fils, on adore ça quand j'entends ça quelquefois dans des bars, ça me rend zinzin, si vous voulez, ça me rend drogué, j'ai envie d'aller danser, d'ailleurs je vais danser.
Même là vous bougez, oui, quand vous entendez.
Ah ben c'est terrible, enfin c'est génial et
avec
ça.
Laurence Bloch,
et ça. Oui, parce
qu'il y a encore
des boîtes qui passent.
Et
puis voilà,
et c'est qui en fait? Queen Pen, c'est elle, Dr. Dre. Et
voilà. Et c'est génial quoi, ça manque, c'est mortel, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est.
Pas mal cette phrase, c'est mortel, c'est la vie.
Ouais, c'est la vie, c'est l'énergie. En 2013, vous signez un documentaire, Debout, ça vous fait un point commun avec.
C'est aussi pour ça.
Avec Nicole Mériadec, parce qu'elle vient de là.
Véronique. Parce que Nicole est le personnage.
Oui, oui, Nicole. Voilà. Vous signez ce documentaire sur Thierry. Qui est atteint de la maladie de Charcot.
Absolument.
Qu'est-ce qui fait que vous retrouvez sur cette histoire? Vous avez envie de vous emparer de cette histoire et de raconter ça?
Parce que j'ai choisi ce morceau justement parce que on danse là-dessus, et que c'est la danse et la vie, et c'est toute l'énergie que lui avait. Il ne pouvait pas danser physiquement, mais il le faisait mentalement. Et la maladie Charcot, c'est une maladie. J'arrête pas d'en parler tout le temps parce que j'essaye. Je me dis qu'il faudrait que le gouvernement s'y mette aussi, le peuple, et les gens, de la solidarité immédiate pour se mobiliser, pour trouver quelque chose qui enraye cette maladie, qui est un truc atroce, qui condamne le corps. Ça attaque les neurones qui conduisent les muscles volontaires, c'est-à-dire tous les muscles, sauf le cœur et les yeux. Et c'est un truc. Moi, j'ai une amie en ce moment qui s'appelle Lorraine, qui est en train de lutter, qui ne peut pas parler, boire, manger, rien. Elle peut rien, ni respirer. Elle a un masque et elle est souriante tout le temps. Elle est incroyable. Elle attend qu'il y ait quelque chose et elle veut vivre parce qu'elle veut aimer encore. Enfin, c'est des gens, mais c'est dément. Enfin, c'est d'une force et d'une, et c'est un exemple, et c'est elle qui nous donne la lumière. C'est pas nous, évidemment. Donc c'est juste ça, c'est en parler pour qu'à un moment donné il y ait des gens qui aillent voir l'ARSLA, l'association contre la recherche, pour la recherche contre cette maladie, et qu'il y ait au moins un truc qui enraye. Vous savez, ça me rappelle à une époque le sida, il y avait rien et les gens mouraient comme des mouches, et là c'est quelqu'un, c'est atroce. Et tout d'un coup ça peut nous arriver à nous, à n'importe qui, et ça, et tout d'un coup ça, vous pouvez plus marcher, et puis vous pouvez plus parler, et puis tout d'un coup vous êtes forcément rejeté, enfin vous êtes pas,
s'il n'y a pas des amis autour,
oui, c'est
ça, une dépendance
terrifiante. Et on devient oublié.
Votre esprit est guerrier, mais on peut plus longtemps. Enfin, c'est Stephen Hawking qui nous a quittés. Et Lorraine, maintenant, pour communiquer, elle a un iPhone avec une application, elle a une voix d'homme. Alors, on se marre avec ça parce que, dit bonjour, oui, c'est Lorraine. Enfin bon, parce que la voix de femme, on n'entend rien, quoi. Ça fait, bon, bref. Donc, et c'est comme ça qu'elle s'exprime, et elle est incroyable. Donc, forcément, elle mérite d'être saluée.
Mais ce qui est fascinant avec vous, Clémentine Célarier, c'est que si j'ai dit au préalable que vous incarniez une forme de féminité avec 37.2, vous incarnez aussi pour ma génération celle qui a embrassé un jour un homme sur un plateau de télévision quand on parlait du sida, et quand
on découvrait que
c'était pas contagieux, qu'il fallait donner de l'amour à ces gens, qu'il fallait les entourer, les aimer. Vous faites ce documentaire debout. Quelques années après, vous mettez en scène La Danse Immobile, un spectacle qui mêle des danseurs, des comédiens valides et handicapés. Dans votre roman, le dernier roman pour lequel on vous a reçu, le handicap, il a une place très très importante aussi. Comment on explique ce parcours de vie, ce regard que vous posez, que d'autres comédiens n'ont jamais posé de leur vie?
Mais parce que d'autres comédiens n'ont pas eu la chance que j'ai eue de croiser sur leur route Thierry Monfray dans une pièce de théâtre, La Servante Amoureuse, où Christophe Lidon nous dit Thierry, il a cette maladie, moi je connaissais pas. Et donc j'ai rencontré un être qui avait ça, et qui se battait tous les jours, qui avait une canne, et puis petit à petit, ensuite il a joué en fauteuil roulant, et puis il n'a pas pu nous suivre en tournée. Et puis après, j'ai été plongée dans cet univers de personnes qui sont extraordinaires, qui sont des exemples, et qui vous donnent la patate, l'énergie. Et puis après Vestiaire, il y a Vestiaire aussi sur la 2, avec vous rencontrez des phénomènes. En fait,
Brigitte Macron aussi qui était dans Vestiaire.
Elle a participé. Je l'ai rencontrée, je l'ai croisée une fois dans un tournage.
Pour parler de Christophe Lidon, c'est lui qui a fait la mise en scène, donc qui a fait le casting et qui vous a réuni sur scène, puisque vous en parlez. Du metteur en scène de la pièce avec Thierry Monfray, non?
C'est-à-dire que il jouait dedans, et pour moi c'était j'ai écrit, j'ai mis en scène tout ça, mais on n'a pas pu aller en tournée, vous voyez, parce qu'il y avait pas de théâtre. Mais il faut pas être négatif. Il faut se dire bientôt on pourra aller au théâtre avec des gens en fauteuil roulant et faire des. Mais c'était féerique, c'était la féerie de l'immobilité.
Bon, en 2016, Clémentine, vous écoutiez.
Ben oui, c'est pareil.
Tu passes James Brown,
elle
se déshabille. Ouais.
Non.
Ouais, ouais. Alors,
c'est
à noter.
Trop chaud là.
Ouais, le son est un peu particulier, mais vous vouliez cette version live de James Brown.
Regardez sur internet. Turn It Loose et.
C'est ça. Give it up.
Give it up, Turn It Loose. Regardez ça le matin quand vous vous levez. N'importe qui, Il a 94 ans, Dieu sait que j'aimais Charles Aznavour.
On va le mettre sur la page de l'émission,
Regardez ça, c'est dément. Alors là, vous avez la patate pour la journée. Je veux dire, c'est le mec, comme il danse, comme il. C'est.
Et c'est génial. Et c'est pour illustrer 2016, La Patate, c'est Clémentine Cellari à la télévision qui cartonne dans la série Lebovitz contre Lebovitz. 8 épisodes. Et vous devenez un personnage récurrent, entrer dans le quotidien des gens.
Ça sera plus récurrent.
Familier. Ça s'arrête
Oui, ça s'arrête. Oui.
Mais pourquoi?
Ah, je sais pas, il faut demander aux décideurs. Mais c'est pas grave, on fait d'autres trucs. Moi, je. Oui, ça s'arrête. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ça s'arrête parce qu'il y a d'autres trucs qu'on va faire à la place.
D'accord.
Mais alors, pareil, ça me permet.
Parce que j'aime bien l'idée que vous soyez régulièrement
c'est
là.
C'est gentil,
en fait.
Mais moi, les trucs récurrents.
Ah ouais, ça vous plaît pas.
Non, mais. Là, c'était génial parce qu'elle débordait, cette femme.
Ouais.
Peut-être que c'est parce qu'elle débordait un peu trop, je sais pas. Ne faisons pas de conclusion alors que nous avons pas les preuves.
Il paraît que c'est un problème de pognon avec vous. Vous preniez trop d'argent, il paraît.
Ah oui, ça.
On s'en est bien rendu compte sur le film qu'elle a fait. Là.
Non, mais c'est un truc qui vibrait, qui était super énergique et que j'ai vachement aimé faire. En plus, ça représente une femme qui est une battante, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis James Brown parce que, voilà.
Et puis, c'est aussi l'année de Demain Tout Commence. 2 millions au moins d'entrées, je crois. Et ça continue
avec
après. Avec Omar Sy.
Bien succès dans le monde entier.
Ouais,
en
ça a voyagé comme film.
Ah oui, mais tant mieux, je savais
pas. Hugo Gélin.
Si, c'est un carton.
On voit les affiches dans toutes les langues.
Génial. Bah, écoutez, tant mieux. Parce
le talent d'Hugo Gélin.
C'est les nouvelles, je suis nouvelle dans le cinéma. Je recommence une... Non, mais c'est vrai, on recommence.
Mais ce sont les jeunes réalisateurs qui font appel à vous, donc voilà, c'est formidable.
Parce qu'ils me trouvent très sexy et dans 37.2 qu'ils ont regardé à 2 ans.
Olivia Mons, vous êtes porte-parole de la Fédération France Victimes, fédération qui regroupe 130 associations d'aide aux victimes partout en France. L'objet de la fédération est de promouvoir, développer l'aide et l'assistance aux victimes. Quels sont les principaux objectifs d'ailleurs? Tout à l'heure on disait, il faut d'abord parler aux victimes. C'est peut-être un peu court, cette formule. Que faites-vous exactement pour les victimes?
Alors, pour les victimes, déjà, donc France Victimes, quand on m'a dit « t'es invité à la bande originale », tout ça, fais attention, ils disent beaucoup de bêtises. Alors, à part Clémentine Cellarié qui a vraiment super bien tenu son rôle, vous avez dit pas mal de bêtises sur la justice restaurative, mais on va pouvoir y revenir.
C'est le moment.
France Victimes, donc la justice restaurative, c'est pas fait que pour les victimes, c'est bien ça qui est intéressant, c'est fait pour les victimes, pour les criminels ou dans les délinquants, etc., et aussi pour la société. Ce qui est un peu...
D'accord, c'est un peu ce qu'on a dit. À quel moment on a dit une bêtise?
Parce que vous avez parlé que la loi était faite pour le pardon, que c'était essentiellement pour les victimes. Non, l'idée, c'est vraiment que ce soit pour tout le monde.
Vous avez raison, Nagui est très con.
Vous avez le droit de blaguer, mais on a dit, me semble-t-il, que ça réduisait les récidives, justement, et que ça permet...
Mais ce que je veux dire, c'est que avant tout, la justice... Non, mais c'est pas grave, ça me permettait d'avancer dans moi. Avant tout, la justice restaurative, elle est faite pour offrir un espace de dialogue entre les personnes. Et cet espace de dialogue, il n'existe pas quasiment en dehors de cette justice restaurative. Le procès pénal, il n'est pas fait pour ça. Donc la justice restaurative, elle permet à des personnes victimes, à des personnes auteurs d'infractions coupables, enfin en tout cas condamnées, de trouver une nouvelle relation. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que cette justice restaurative, elle permet ces rencontres, ces dialogues. Ça peut aussi ne pas aboutir.
Mais qui décide? Il faut être deux pour pour se retrouver. C'est à la fois la victime et le criminel. En l'occurrence, pour rester dans l'exemple de dans Mille Morceaux, qui est à l'initiative de cette rencontre?
En fait, les deux. La loi de Christiane Taubira permet en fait à toute personne, victime ou condamné, de demander à participer à une mesure de justice restaurative.
Mais comment ça se déclenche, ça que tu...
Ben en fait, d'abord, il faut de l'information. Et c'est aussi pour ça que c'est important, ce film. C'est que même si on n'est pas dans un cadre légal, on va dire, de justice restaurative, dans ce film, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de préparation.
Puis c'est pas un documentaire.
Il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas un tiers, le tiers professionnel qui a été formé exprès pour ça, la sécurité psychique et physique des personnes. On voit que les personnages se coltent un petit peu, il y a de la colère qui s'exprime. Donc dans la loi, telle que c'est fait, les possibilités, donc c'est informer les gens qui peuvent bénéficier de ça. Que à côté de la justice pénale, la justice d'État, on peut avoir une autre solution.
Les demandes, je ne sais pas combien de cas, en tout cas, ont été utilisées ou existent en France en moyenne. Vous avez des chiffres ?
On n'a pas encore. Enfin, on a très peu de.
C'est trop récent.
C'est très récent. La loi date de 2014, mais avant tout, pour mettre en place ces mesures de justice restaurative, il faut des professionnels formés. Donc en fait, nous à France Victimes, on forme avec un partenaire qui est l'Institut français pour la justice restaurative.
Parce que je voulais savoir, est-ce que ça vient des victimes qui demandent à rencontrer les criminels, est-ce que c'est les criminels qui veulent demander pardon aux victimes?
C'est les deux. Ils veulent pas spécialement.
Où il y a pas de pardon.
Ils demandent pas obligatoirement pardon. Ils veulent que ça serve à quelque chose. Ils veulent pouvoir dire leur souffrance aussi et dire qu'ils ont été victimes. Mais à un moment donné.
Ça, ils peuvent le dire au tribunal, ils n'ont pas besoin de rencontrer en huis clos la victime.
Mais ce n'est pas la même chose. Le tribunal, le procès pénal, c'est un grand théâtre. Ils jouent leur liberté, ils jouent. Il y a un phénomène d'acteur.
Je dis ça parce que dans le film, plusieurs fois, il dit « je l'ai dit au tribunal ».
Exactement. Ouais. Mais on se rend bien compte que finalement, le procès pénal n'est pas suffisant. Ça crée encore des insatisfactions de la part de la victime parce qu'elle n'a pas toutes les réponses qu'elle souhaite. Et puis de la part de l'auteur aussi parce qu'ils sont... il le dit aussi très bien... mon avocat m'a dit, non, tu fais ça, tu dis pas, tu baisses les yeux, tu fais pas le fanfaron, etc. Juste une petite précision. Dans le film, en 1000 morceaux, on voit une rencontre avec un auteur et sa propre victime. Oui. Donc, Nicole Parmentier.
La mère de la victime.
Qui reste. Oui. Mais oui, en fait,
la victime,
pour nous, alors ça c'est intéressant Nagui, pour nous la victime, bien sûr c'est Olivier, l'enfant assassiné, mais Nicole Parmentier, la maman, est une victime à part entière.
Ah, mais toute la famille, père aussi. Toute la famille autour, oui, c'est ça. Oui.
Mais c'est ça, donc d'accord. C'est pour ça, vous c'est une victime et justement donc, il peut y avoir des rencontres entre victime et auteur de la même affaire, il peut aussi y avoir des rencontres entre des victimes et des auteurs qui ne se connaissent pas, mais qui ont fait, agi ou subi des choses similaires.
Donc une femme victime d'un viol peut rencontrer un violeur.
Ouais. Qui a violé une autre femme.
Exactement. Ouais. En général, on fait ça. Alors c'est comme ça qu'on a commencé en fait, la justice restaurative en France. On a fait des rencontres, qu'on appelle des rencontres détenues victimes. Ça peut se passer en prison. Là, en l'occurrence, en 2010, on a commencé ça. On était à la maison centrale de Poissy. Et il y avait trois auteurs détenus, trois victimes, et on l'a refait les années après. Et ce qui se passe, on se dit, on s'en fiche, enfin, les gens ils ont rien à apprendre finalement les uns des autres. Et pas du tout. On se rend compte vraiment que les victimes et les auteurs ont beaucoup à apporter dans ce dialogue, dans cet échange de souffrance.
Et ça répare aussi. Vraiment.
Oui. Mais oui, il y a un vrai apaisement. On a une victime qui avait été victime d'un viol qui dit il y a une porte qui est tombée. Moi j'étais embrigadée, j'étais emmurée. Il y a quelque chose qui est tombé, il y a un mur qui est tombé et une porte qui s'est ouverte.
Parce que le,
la petite
le
lumière qu'on
oui,
voyait.
Le sentiment de l'extérieur, j'ai le sentiment que ça fait plus de bien potentiellement au criminel qu'à la victime.
Eh ben alors pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. C'est vraiment extrêmement équilibré et ça apporte autant.
À l'un qu'à l'autre.
À l'un qu'à l'autre. La victime a vraiment ce sentiment d'avoir pu exprimer. On a un petit film sur YouTube de 6 minutes qui est vraiment avec les personnages, avec un Alain dont l'enfant a été assassiné plus de 20 ans précédemment et qui dit combien il a pu exprimer sa souffrance, exprimer sa colère aussi.
Est-ce que la durée est importante justement entre l'acte, le crime, entre guillemets, et la rencontre ? Dans le film, c'est 25 ans. Là, l'exemple que vous donnez, c'est 20 ans. Il y a une période, il ne faut pas que ce soit trop récent.
En fait, il n'y a pas de...
Psychologiquement, quand même, j'imagine que ça doit être dur.
Il y a des personnes qui sont prêtes.
Avant d'autres, oui. Il faut vraiment être prêt. Parce que...
ouais. Mais l'idée, c'est vraiment la préparation, en fait. Il y a des personnes qui veulent tout de suite se confronter à une violence, parce que c'est violent, ces rencontres, soit en face à face ou en groupe.
Si des personnes qui nous écoutent veulent avoir des renseignements, il y a un site internet,
sans problème, donc sur France-victime au pluriel.fr. et également sur justicerestaurative.org.
Il faut redire, pardon, que ça, oui, que ça diminue le taux de récidive chez les criminels.
Absolument.
De 30%. Dans des pays où c'est très, très pratiqué, ce qui est moins le cas encore en France. Et c'est...
Parce que c'est récent en France, voilà, ce qui n'était pas le cas ailleurs. Merci Olivia Mons d'être venue éclairer cette émission qui était obscure.
Ah, il est rancunier.
On pensait avoir travaillé, mais tu vois,
c'est une teigne, le Nagui.
Il faut toujours faire des efforts.
Faites attention quand vous rentrez chez vous.
Tanguy. Non, mais c'est bien, on s'est rencontrés avant qu'il y ait acte. Tanguy Passion.
Je vous l'ai dit.
Gérard Collomb est à Lyon ce midi.
Oui, fini Paris et ses cohortes de rap. Là, il est bien chez lui, à s'étirer dans son clic-clac en se disant qu'il n'a rien prévu de la journée. C'est Doc Gynéco, mais en blanc. Un an qui pensait attentat, islamisme, cellule à démanteler. Là, il sait juste qu'il faut qu'il achète du gruyère râpé au Monop. La vie retrouvée, Nagui.
On en parle après les infos de midi. C'est la bande originale, soyez bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadoboudadi.
Bonjour.
Marina Rollman. Bonjour. Tanguy Bassiro.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Daniel Morin.
Ah, enfin.
Et notre invité, Clémentine, c'est là.
Bonjour. Clémentine. 37-2.
Avec,
non mais non.
Avec en 1000.
Il s'en remet pas.
En 1000 morceaux.
Il est pas tout jeune.
L'histoire d'un huis clos, vous et Serge Riaboukine, mais il faut dire encore une fois que c'est un huis clos. Vous êtes tous les deux dans une usine désaffectée, une de miroirs avec ces miroirs brisés, mais qui symbolisent ces destins brisés, ces vies brisées, aussi bien la maman qui a eu son enfant tué que l'assassin de cet enfant qui lui-même aussi, on le comprend au fur et à mesure que le film avance. Ça ne donne aucune raison pour son geste, évidemment, mais il explique le monstre qu'il est devenu et qui l'a transformé en monstre et comment il est devenu un monstre, en expliquant pourtant qu'il aimait cet enfant, puisqu'il y a aussi en toile de fond des actes de pédophilie qu'il a subi et qu'il a reproduit. 25 ans après le crime, cette maman rencontre ce criminel. Elle veut comprendre, pas forcément pardonner, mais comprendre. Et de là, enchaîne tout un dialogue.
Tu sais, tu l'as préparé l'émission à la pause, finalement.
Non, j'ai compris. Là, maintenant, j'ai compris.
Non, elle cherche un chemin, elle cherche quelque chose, elle cherche une alternative. Elle n'est pas forcément au courant de cette justice légale, enfin, je veux dire, restaurative, mais elle l'a fait, elle, à la sauvage. Et donc, moi, je me suis dit qu'elle avait comme un espèce d'espoir, en fait. C'est un film sur l'espoir, je trouve, et sur l'espoir de l'amour, même si dans la situation et dans la condition et dans la circonstance les plus ténébreuses et les plus terribles, c'est quand même l'âme humaine qui cherche quelque chose, quoi, un sens et tout ça, et c'est pour ça. Alors, que ça m'a plu.
C'est là, pas d'autre solution.
C'est un film, c'est une fiction, mais elle pourrait être vraie, puisqu'il y a cette loi, et puis il y a des cas, et pas uniquement en France, dans le monde entier, où des rencontres sont faites. Ça peut aller jusqu'au pardon, mais c'est pas obligatoire, et d'ailleurs, c'est pas ce que souhaite cette maman dans le film. Je voulais citer les autres comédiens, parce que oui, c'est un huis clos, et on parle beaucoup de Serge Riaboukine et de vous, Clémentine Sélarié, mais il y a également Lily Meriadec qui joue, Juan Carlos Ruiz et Jean-Baptiste Marché. Ouais, Jean-Baptiste Marché étant le Olivier.
Voilà.
Et puis, fils de Nico. Et alors, les enfants qui font des horreurs. Ouais. Les enfants qui représentent l'enfance de Serge Riaboukine, qui se torturent les uns les autres, qui font des...
À la manière enfantine. Enfin, je veux dire que les gens ne croient pas que...
Ouais, enfin, il y a le...
Mais oui, c'est...
Il y a la référence au chien andalou qui est assez violente, à l'image.
Ils font des remakes de films.
C'est ça. Ils recréent ce qu'ils ont vu à l'image. Ouais. En 1000 morceaux, le film est déjà sorti. Pas beaucoup de salles. 3 salles, vous me disiez, à Paris.
Alors,
18
à Paris,
en
on en a 4, je crois.
4 à Paris.
3, voilà. mais on est super contents. C'est extraordinaire. Et puis on en a en tout en France à peu près une vingtaine. Et donc on est très heureux. Bon, bah aller au cinéma le plus proche, c'est sur Allociné, la bande annonce quand même. On est quand même dans des circuits assez officiels,
privilégiés.
Et non, mais c'est normal. C'est un film qu'il faut porter. C'est comme une espèce d'ovni, enfin un truc un peu, mais qu'il faut porter parce que c'est une ouverture, c'est une information aussi, c'est plein de trucs.
Et puis c'est intéressant, mais le mot prend tout son sens, et c'est intéressant, il y a de l'intérêt, et on apprend des choses. Voici Tanguy Passion.
Tout ça.
Là, devant toi.
Il est pas mal.
Tanguy, Gérard Collomb est libéré, délivré.
Oui. Ben oui, il est rentré à Lyon où depuis 24 heures, il danse en slip dans les rues en chantant qu'il n'en a plus rien à foutre. À l'heure qu'il est, il doit être en train de bouffer du sauciflard en se pétant la ruche comme Maïa l'abeille dans un bouchon lyonnais. Enfin, il est libre, il est bien. Au ministère de l'Intérieur, il était entouré de flics, donc il ne pouvait rien faire, même pas moyen de fumer un spliff ou de mater un DVD de craqué de la dernière saison de Belphégor, qu'il n'a pas encore vu puisqu'il bosse depuis qu'il est né. Il en est à 130 annuités. Quand il va arrêter, ça va faire péter le système de retraite. Alors le Parisien hier racontait l'histoire, à côté de la série de TF1 qui vous mettez la misère, Nagui, c'est pot de balle. Hein. Flashback, lundi, Collomb présente sa démission. Les médias s'affolent, sur BFM TV, Christophe Barbier fait l'hélicoptère, avec son écharpe parce qu'il est bien élevé, en hurlant « c'est du lourd ». Puis un vétérinaire l'endort avec un sédatif. Mais deux heures plus tard, on annonce le décès d'Aznavour. Du coup, Collomb, ça passe à la trappe. Et partout à la télé, on voit Michel Leb raconter que la veille encore, Aznavour avait pris trois fois des pâtes au pistou. Lundi soir, Édouard Philippe, le grand brun avec deux chaussures pareilles, rentre d'Espagne. Hein, il devait penser que Valls y était déjà, mais l'autre, ça fait quatre jours qu'il nous dit au revoir en France. Ouais. On a envie de le foutre dans un Uber et de dire au chauffeur, mon pote, t'arrêtes pas avant Barcelone. Là, Philippe apprend la démission de Collomb. Personne ne le lui avait dit. Il est Premier ministre, mais il est au courant de moins de trucs que le chien Nemo. Un résultat, il est furieux. Lundi soir, Macron refuse de laisser partir Collomb, qui est avec lui depuis le début, donc c'est son porte-bonheur. Comme quand un footeux porte à chaque match le même slip, parce qu'un jour avec, il a mis 4 buts contre Metz. Sauf qu'on ne peut pas sauter à pieds joints dans Collomb, ou alors c'est qu'il a les narines vraiment dilatées. Donc Collomb, lundi, a tout annulé, dont un voyage en Guinée qu'il devait faire le jour même. Là-bas, les types se sont retrouvés comme des buses avec 14 000 petits fours, la moitié de leur PIB envolé. Il se rend à l'Elysée, rencontre Macron, lui dit « m'en veux pas, vieux », enfin façon de parler. « Mais moi, j'ai 70 piges, je suis claqué. À Lyon, je serai sur un rythme, un saucisson brioché, un Saint-Marcelin, un saucisson brioché, adieu. » Et là, Macron arrive à le retourner, parce qu'il est bon à l'oral. Il arriverait à convaincre Claire Keim de jouer au Hellfest. Et il lui dit « Gégé, je refuse ta démission ». Il lui prend sa lettre et la jette à Castaner, qui, dans son panier posé devant la cheminée, range un os. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Collomb se retrouve dans la situation de Zoï Jonathan, quand à l'énigme du père Fouras, qu'est-ce qui est jaune et qu'on presse au-dessus du poisson pané pour y donner du goût, elle y répond à un kiwi pas mûr et qu'elle est retenue prisonnière dans la vigie.
Bon, qu'est-ce qui a poussé Gérard Collomb à démissionner une deuxième fois?
Eh bien, dit le Parisien, une petite phrase de Daniel Cohn-Bendit lui disant de prendre sa retraite. Ce que lui a fait depuis longtemps, puisque dans la vie, il fait juste des petites phrases. Un 50 piges qui répand son fiel avec un grand sourire, c'est Gossip Girl, mais en vieux. Donc là, Collomb pète un câble, sa femme en plus lui dit de partir, parce qu'en plus, la REM, c'est un panier de crabes peuplé de jeunes cons qui le surnomment, dit-on, Papy Confiture. Hein, sauf Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, qu'il surnomme Papy Glyphosate parce qu'il sait, lui, ce qu'il y a dans les fruits. Collomb réunit donc ses conseillers, leur dit ciao les losers, j'ai plus rien à perdre, d'ailleurs toi t'es un con, toi aussi, et il remet sa deuxième démission à Macron. C'est une sorte de bégaiement, mais administratif. Mais les macronistes du premier cercle, dans le Parisien, se lâchent et disent de Collomb, c'est honteux, Emmanuel rentre de son voyage aux Antilles épuisé, et il se prend ça en pleine figure. Tu m'étonnes qu'il ait été épuisé. Il a passé 3 jours à danser collé serré avec des gangsters à poil. Sa vie n'est qu'un long clip de Dr. Dre. Il a failli twerker. Mais ça, Collomb n'y peut rien. Peut-être que si Macron lui avait proposé de venir, il serait lui aussi retourné la tête au planteur, se serait retrouvé au pieu avec des gens et qu'il aurait dit « mais enfin arrêtez, je suis à l'intérieur » et qu'il lui aurait répondu « bah moi aussi ». Et il serait enfin amusé. Place Beauvau, toute la journée, on parle d'attentats, d'islamisme, de l'album de Zouk, d'Evangélie, des menaces qui pèsent sur nous. À un moment, si on se détend pas, on fait un burn-out. Et en plus des jeunes idiots là qu'il traitait de papy confiture alors qu'il a 71 ans. Il n'est pas en fin de vie dans un EHPAD à regarder TPMP pour Isabelle Morini-Bosque. On apprend que Brigitte ne lui adressait plus la parole depuis 2 mois. Elle était fâchée. Alors il devrait s'en foutre, parce que la République, c'est pas les amours. On choisit un être, pas un couple. Moi, Brigitte, je m'en tape autant que du mari de Merkel. On fait tout un tralala parce qu'elle est élégante. Mais enfin, sapez-moi en Vuitton, moi aussi je vous ferai rêver avec mes guibolles. Mais Collomb est un mec sensible. Et cette ambiance pourrie, qui est la même que dans une start-up, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est cool parce que les gonzes jouent au baby-foot à la pause, alors qu'en fait, ils rêvent de vous trucider avec la barre des attaquants. Eh ben, Collomb n'a pas supporté. Hier, il a fait sa passation de pouvoir avec Édouard Philippe. L'autre l'a fait poireauter 10 minutes. Collomb a passé 10 minutes devant la porte du ministère tout seul. Il a la vie d'un témoin de Jéhovah débutant qui n'ose pas sonner. Alors, dernier dernière humiliation d'une trop longue série. Il est parti et là nous écoute sans doute dans son bain à Lyon où aujourd'hui il fera 22 avec du soleil. Le rêve, éclatez-vous monsieur.
Merci. La bande originale, Lady sur France Inter. Clémentine Célarier, vous portez ce film à bout de bras, que ce soit pour la promotion dans le jeu, aussi aux côtés de Serge Gainsbourg en 1000 morceaux. Est-ce que vous êtes identifié aussi à cette maman? Est-ce que vous-même, ça vous a fait réfléchir sur le pardon, la résilience, vous parlez?
Oui, de toute façon, j'ai dû dans ma vie réfléchir au pardon pour me libérer d'une grosse culpabilité. Dans quelque chose que j'ai vécu il y a longtemps. Enfin, donc, oui, on m'a dit, il faut que tu pardonnes, parce que si tu pardonnes, ça va te libérer. Donc forcément... En étant victime, absolument. Enfin, en étant coupable. Enfin, voilà, un truc qui s'est... En plus, c'est toujours été quelque chose qui m'a... j'ai été élevée avec le catéchisme, j'ai été élevée catholique, et c'est toujours quelque chose qui m'a attirée, l'idée de toujours essayer de comprendre, de pardonner, le truc de tu tends la, si on tape sur la joue gauche, tu tends la joue droite, tout ça. C'est un truc qui m'a guidée, quoi. Bon. L'idée d'essayer de chercher la pureté, la bonté, la beauté des êtres humains.
Pourtant, tout à l'heure, vous disiez que vous ne vouliez pas qu'il y ait de religion dans cette idée de pardon.
Parce que la religion peut être une restriction pour moi à la foi. C'est-à-dire que on peut avoir la foi et ne pas être religieux. Ce qui est maintenant, en mon cas, moi, j'ai pas envie d'être religieux. Je respecte toutes les religions, absolument toutes.
La spiritualité.
Et je le dis d'autant
plus
aujourd'hui. Comment ?
C'est la spiritualité.
Oui, oui, une forme de foi en l'être humain. Enfin, c'est pour ça que j'ai aimé ce film Human que j'ai trouvé exceptionnel. C'est-à-dire, c'est ça. C'est
Clémentine, oui, vous êtes juste en train de nous dire que vous avez été victime dans votre vie. Et là, on n'est plus dans la comédie, on n'est plus dans l'acte et dans le cinéma ou dans la fiction, que on vous a conseillé de pardonner, que donc vous avez fait ce travail de résilience et de pardon, comme on peut le voir dans le film.
Mais pas avec la même chose. Hein.
J'entends,
j'ai pas été
j'ai compris la pudeur que vous aviez, vous ne voulez pas en parler plus que ça, mais c'était pour que l'on comprenne bien que vous ne parlez plus du personnage, mais vous parlez de votre vie personnelle.
Ben, oui, parce que quelquefois, dans la vie, à plusieurs... que ce soit l'histoire de femmes battues et de tout ça, enfin, je veux dire, je vais pas commencer à reparler de ma vie, parce que ça va être récupéré encore sur les trucs, mais pas du tout. Mais c'est juste qu'il y a des moments où on vit des choses dramatique et que on se sent coupable quelquefois, mais je parle pas là de d'un homme qui vous aime en vous tapant dessus, hein, mais
et vous avez demandé pardon?
Ben j'ai essayé d'aller vers ça parce qu'on m'a dit que c'était la seule façon de mais là je parle de plusieurs choses que je mélange exprès,
d'accord,
hein,
d'accord,
parce que c'est voilà dans des moments
ça fait du bien, enfin
alors je sais pas, c'est mes parents mêlés à l'Afrique, hein, je suis né en Afrique, je sais pas, c'est le sol, la lumière, je sais pas, qui font que l'idée c'est de dégager le mauvais. Ce n'est pas de s'attarder sur le mauvais et de l'agripper là. Mais c'est difficile parce qu'il y a des moments où on est complètement désespéré. Et puis, mais là, il y a l'art. Il y a les humains qui vous entourent et il y a l'art. Il y a toujours cet au-delà, cette chose qu'on va créer, qu'on va dépasser, qu'on essaye de dépasser. Parce que la vengeance, si vous voulez, ça n'apporte, je crois,
que plus de violence et plus de haine.
Que voilà. Ça. Et c'est la haine. Que moi, ça m'intéresse pas. Et j'essaye, on essaye.
Certains le vivent que comme une manière de se défouler pour ça ne rappe.
Oui,
alors, je crois que c'est dit dans le film, ça ne redonnera pas vie.
Mais non, ça fait pas avancer
à l'enfant.
Mais c'est peut-être pour ça que je suis touchée par des gens qui sont enfermés dans leur corps, dans les maladies. C'est pour ça que j'ai été quelquefois visiter des gens en prison, de faire des ateliers de théâtre, parce que j'ai toujours envie de me dire, allez, d'avoir un espoir dans l'être humain, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont fantastiques et exceptionnels qu'on n'entend jamais, quoi.
On voit bien, Daniel Morin, en tout cas, que la justice dite réparatrice dont on parle avec ce film en 1000 morceaux est un phénomène complexe, troublant, déstabilisant, même bouleversant. Et derrière tout ça, il y a la question du pardon. Et là, tout dépend vraiment de ce que l'on ressent au plus profond de son être, de son âme, dans son cœur.
Non ! Ça y est, ça le reprend. Il met bout à bout des mots à la con qui finissent par faire des phrases à la con. et ce toujours dans un français approximatif, toujours sirupeux, toujours mielleux, toujours bien dégueu, plein de mots. J'en peux plus, coupez-moi les oreilles, faites-les frire, que je me les bouffe et que je l'entende plus le matador de Louxor. Lila, Lila, file-moi ta hache, que je le découpe, le débile des bords du Nil. Vous êtes fracassant d'ennui, mon pauvre monsieur Guy. Alors oui, je sais, vous avez des principes et des valeurs très service public. Vous êtes courageux comme un flic sans peur, vous êtes sévère comme un juge sans pitié, vous êtes efficace comme un facteur sans alcool. Mais, excusez-moi, vous êtes con comme un douanier sans frontières. Et puis, qui me disait encore avant l'émission... Pour moi, la justice, la vraie, c'est trancher la gorge à des Philippins, comme en Arabie Saoudite. Le pardon, l'émotion sont des valeurs de tapette. L'âme, ça sert à rien. Le cœur, c'est bon que dans le pot-au-feu. Hein? C'est qui cette personne au physique de fasciste et à la culture de collabo? C'est qui cette personne à l'hygiène plus que douteuse qui a une haleine de surimi décomposée? Non, pas la peine de quitter le studio. C'est bien de toi que je parle, Marina. Oui. Marina, l'ami nazi de monsieur Guy. Alors justement, monsieur Guy, vous parlez de justice réparatrice. Ok, très bien. Mais moi, j'ai plutôt envie de parler de vengeance. Vengeance réparatrice en vous pétant la gueule. Ouais. Et pourquoi je vous pèterai la gueule, monsieur Guillain? Mais tout simplement parce qu'une fois de plus, vous avez dit
n'importe quoi.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Parlons de l'avenir. Il y a là très rapidement la route de Madison. Sur
ce
la
soir.
Route de Madison. Ben oui.
On joue à Roy ce soir.
Exactement. Ouais. Dans deux jours, ça sera à Bure-sur-Yvette. Ouais. Ensuite, il y a Issoudun le 13 octobre, le 16 octobre Montauban, le 17 à Carcassonne, Annonay le 19 octobre, toujours en octobre, le 20 à Vias, le 23 à Vernon, le 9 novembre à Fréming, Merlebach, le 10 novembre à Épernon, ensuite toujours en novembre, le 16 à Châteaudun, le 20 à Porto Vecchio, le 23 à Contessène. Avec Aurélien Recoin et Gérard Cesbron.
Oui, absolument, Gérard Cesbron.
Et ça continue.
Date, Marseille, La Flèche, Liège.
Oui, oui, c'est une aventure tournée. Fantastique. Avant de jouer à Paris, on va jouer à Paris sûrement l'année prochaine. C'est en cours de discussion.
Déjà... Ah, d'accord, il n'y a pas de théâtre.
C'est en cours de discussion.
Très bien.
Et voilà, mais c'est une aventure fantastique. C'est une très belle pièce. C'est l'histoire d'amour impossible. Donc,
c'est génial.
Et, et en janvier sortira un film, Edmond.
Ah oui.
Alors, c'est le Edmond du théâtre.
C'est le Edmond du théâtre.
D'Alexis Michalik, d'accord.
Ouais, Michalik qui m'a proposé de faire Sarah Bernard. Je lui ai dit, oh, bon, dis donc, il y a pire.
Oui, parce que j'allais dire, vous n'étiez.
C'est un petit rôle. Hein,
vous n'étiez pas au théâtre?
Non,
pas dans
pas
la pièce.
Non,
j'étais pas dans la pièce. Mais vous êtes en film. D'accord.
Non, et il m'a proposé, parce qu'il a, demandé à personne de la pièce de jouer dans son film. On a tourné en République tchèque, c'était génial. Puis faire Sarah Bernard, puis c'était en costume, ouais. Avec les corsets, les trucs. Enfin, c'est magnifique. Et puis surtout, Alexis, c'est un très beau film. C'est un film.
Déjà, la pièce était formidable.
Ah oui, ah,
magnifique. L'histoire est,
ah oui, oui, j'y suis allée.
Très bien écrite.
Ça m'a plu,
très drôle, très rythmé.
Ouais. Et puis c'est très touchant. Moi, j'ai beaucoup été émue par ça. Et voilà. Et c'est un beau film plein de souffle et de romantisme d'énergie. Et enfin, je l'ai pas encore vu, mais je sais que
Edmond, question, c'est Edmond Rostand, évidemment,
oui,
qui écrit presque en urgence,
oui.
Cyrano de Bergerac, parce qu'il sait pas comment s'en sortir et qu'il faut subvenir à ses besoins. Et il y a des histoires de tromperie, de couple,
oui, et puis de la muse,
ouais,
il y a sa muse. Et pardon, j'ai pas tous les noms des comédiens, je sais qu'il y a Olivier Gourmet, il y a Thomas Olivares aussi.
Ouais.
Et puis il y a des acteurs géniaux, Tom Leb aussi.
C'est un premier passage à la réalisation pour Alexis Michalik.
Oui.
Il est très connu au théâtre, le porteur d'histoire.
Et ce qui est bien, c'est que ce soit lui qui fasse le film, c'est-à-dire que ce soit pas quelqu'un qui soit
mais
emparé.
J'ai jamais vu un réalisateur qui vous dit non, là tu fais pas bonjour, je voudrais du café. Tu dis bonjour, je voudrais du café. C'est-à-dire que, non, mais, la respiration, tu l'aimais pas. Bonjour, je voudrais. Il connaît la musique comme un chef d'orchestre. C'est trop marrant. Donc, vous faites, et puis finalement, bon, moi, vous reposez sur quelqu'un, finalement.
Ouais,
mais oui, parce que vous allez dans le mouvement de quelqu'un. C'est comme dans les arts martiaux, il faut accueillir
le. Mais le sentiment de liberté ou d'apporter
quelque
chose.
Oui, mais vous l'avez après. Parce que, en fait, si vous faites comme il dit, après, il se détend.
Et vous faites comme vous voulez, au final.
Et après, petit à petit.
C'est malicieux.
Les arts martiaux, ça, c'est l'âge. L'expérience. Les arts martiaux, vous prenez le mouvement de celui qui veut que, voilà. Puis après, vous acceptez, puis après, vous pouvez. Non, mais en plus, il me le dit. Il m'a dit, maintenant, fais comme tu veux. Et puis bon, mais du coup, vous êtes quand même dans un, mais c'est important, parce que c'est le projet, c'est la patte d'un réalisateur, c'est bien.
En 1000 morceaux, vous dites quoi à vos amis, ou même à ceux qui nous écoutent, qui sont vos amis, pour qu'ils aillent le voir.
Ils me font confiance. Je leur dis que c'est un film d'amour, en fait. C'est un film sur la recherche de l'amour dans une situation très très extrême et très douloureuse et très ténébreuse. Et il y a beaucoup d'amis qui sont venus à l'avant-première, donc je leur dis merci déjà d'être venus. L'avant-première qu'on y a eu lieu lundi, et je leur dis que c'est un film qui inspire, enfin qui fait réfléchir sur l'amour. Puis j'ai pas besoin de leur j'essaie de les convaincre, mes amis, ils viennent, parce que ça les...
Vous avez dit que le film avait été tourné il y a 5 ans.
Il y a 2 ans qu'on l'a tourné, mais Véronique a mis 5 ans à le mettre, à le faire en tout.
Parce qu'elle avait... Avant que la loi ne change en France, donc.
Oui, Véronique, c'est ça.
Presque, la loi Taubira était il y a 4 ans.
Mais elle a été inspirée par un... Oui, absolument.
Un documentaire que vous avez tourné, non ?
Elle a été inspirée par un documentaire, Le Tueur de la Rivière Verte, qui lui, effectivement, craque aussi quand quelqu'un lui dit « Je vous pardonne ». Moi, je vous pardonne. Après avoir entendu tout un tas de familles, il avait assassiné énormément de personnes, de femmes. Et il y a une femme qui a dit « Moi, je cherche un autre chemin, c'est le pardon. » Et cet homme, à ce moment-là, se fissure et il pleure parce qu'il voit une petite lumière de quelque chose, alors que c'est un monstre. Enfin, il le sait. Et puis, il va mourir, de toute façon. Enfin, et donc, c'est ça qui a fait que Véronique Mériadec et Gérald Massé ont écrit ce film. Et donc, c'est ce truc... C'est impossible et c'est très idéaliste, vous voyez, cette chose. Mais
est-ce que finalement, parce que c'était Eric Emmanuel Schmitt qui avait écrit aussi des différentes formes du pardon.
Il en avait écrit des conneries.
Et notamment, il y avait une forme qui était pratiquement une arme, c'est-à-dire que le fait de pardonner faisait encore plus de mal au criminel. Ouais.
Il disait que le fait de pardonner
faisait
du mal au criminel.
Ouais, faisait du mal au criminel. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que d'un coup, il était encore plus ému et touché de la bonté de la personne et s'en voulait encore plus du crime qu'il avait commis.
Apparemment,
il disait que c'était sa vengeance.
C'est ça, la vengeance du pardon.
Ça fait d'autres choses. Il faut vraiment s'ouvrir à l'information là-dessus. Hein. Il faut aller sur Internet, il y a plein de témoignages de gens. Et je pense qu'il y a plus de personnes que ça fait avancer plutôt que
souffrir.
Oui, que souffrir.
D'accord. Non, c'était
la vengeance du pardon.
Mais on
peut passer par la souffrance. Oui, c'est ça. Mais on peut souffrir et avancer. Enfin, je veux dire,
En 1000 morceaux, en tout cas, ça crée débat et ça fait discuter, c'est sûr.
Oui. Merci en tout cas.
Réalisé par Véronique Mériadec. Mais merci à vous, Clémentine, d'avoir accepté notre invitation et d'en avoir si bien parlé. Des excuses à présenter, peut-être, Daniel Morin.
Évidemment. Désolé pour Olivia Mons, notre spécialiste, qui s'était permise de douter des capacités de travail de Leïla et de Nagui. Faites gaffe quand même, Olivia. À la pause, j'ai vu le pharaon. Il a appelé 2 anciens amis criminels de guerre serbes. Il leur a filé... Ben voilà, j'invente rien. Il a filé votre adresse. Enfin, je dis ça, je dis rien. Désolé pour nos auditeurs âgés et chelous qui nous ont appelés à la pause toujours pour regretter la durée bien trop courte de cette nouvelle rubrique lampe, coquillage et tricot. Alors, c'est pas faux. Je vous comprends. Pourtant, on avait frappé fort hier déjà avec la rubrique spéciale machine à laver par Emmanuel DeVos. Ben, c'est ça, de confier une émission à un vieil égyptien un petit peu gâteux. Et désolé enfin pour les habitants d'Ormesson sur Marne qui doivent avoir une belle vie de merde vu où ils habitent, mais bon, une lueur d'espoir dans la misère pour vous le 2 février prochain, vous pourrez aller voir Clémentine Célarier sur la route de Madison.
Salut, méchant. Merci mille fois, Clémentine. Bonne journée.
Merci à vous.
Bonne
journée. Merci du fond du cœur.
Henri Morceau est en ce moment au cinéma partout en France. Demain, il y a une édition spéciale, évidemment, pour l'hommage national rendu à Charles Aznavour. Notre émission, donc, est écourtée à midi.
On est payé quand même.
À midi, on se retrouvera au prorata temporis, ou au tiers. À midi, il y aura donc Daniel Morin payé au tiers. Tanguy Pasturo, Leïla, Albert, Frédéric Sigrist, Alexis Le Rossignol et moi-même, et nous vous présenterons une émission spéciale consacrée à Charles Aznavour. On nous réécouterons son humour, ses goûts musicaux et sa bonne humeur. Et puis chacun aussi choisira un titre de Charles Aznavour que nous pourrons réécouter. Passez une bonne journée à suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour.
Oui,
Philippe.
Bonjour les amis. J'ai eu enfin aussi une lampe en forme de coquillage.
Toi aussi?
Ouais. Alors, Daniel, tu ris pas, c'était une grosse moule.
Oh non.
Mais si, mais c'est vrai.
Je vois pas ce qu'il y a de drôle.
Non, justement.
Faites un club, les garçons.
Oui, salut.
Ciao.